Je voulais tourner dans Luc, chapitre 17, au verset 1. Luc, chapitre 17, verset 1. Ça vous surprend-tu si je vous dis qu'on va, voir une autre parabole ce matin? Ça fait plusieurs prédications que je suis accroché sur les paraboles, parce qu'il y en a tellement, puis il y a un enseignement à travers chaque parabole. Alors, la parole de Dieu, c'est infini. C'est insondable, c'est profond. Il y a tellement de choses quand on lit ça qu'on est appelé à découvrir. Alors, Luc, chapitre 17, je lis. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, ceins-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Oui, notre Dieu et Père, on est vraiment choyé encore de pouvoir ouvrir ta sainte parole, mais on est conscient que ce sont tes pensées que nous lisons. Ce sont tes enseignements, alors on implore ton esprit, Seigneur, afin que tu parles à chacun de nos cœurs, qu'on puisse comprendre, que ça puisse nous être révélé clairement et qu'à travers tout ce que nous allons retirer, on puisse mettre ça en pratique pour que ton nom soit glorifié. Amen. OK, alors, Jésus commence ici ses instructions en disant à ses disciples de pas être un piège ou une occasion de chute pour les croyants. Ça, c'est une particularité de la vie chrétienne que souvent on a tendance à laisser glisser entre nos doigts. Dans le sens que la vie chrétienne, c'est pas une vie individuelle qui se vit seule chez nous. Vous me suivez bien là? C'est pas une vie où tu dis « je vais vivre ça chez nous tout seul, tranquille ». C'est une vie de communauté où les croyants sont invités à considérer puis à se préoccuper les uns des autres. Dans le Nouveau Testament, il y a à peu près une quinzaine d'expressions qui soulignent la relation avec les autres. Si vous avez lu le Nouveau Testament, vous êtes tout un jour ou l'autre passé sur l'expression qui dit « aimez-vous, accueillez-vous, exhortez-vous, veillez, édifiez-vous, estimez-vous, honorez-vous, soumettez-vous, supportez-vous, pardonnez-vous, priez, consolez-vous, soyez en paix, portez les fardeaux les uns des autres. » Les uns les autres. Ça, c'est la base de la vie chrétienne, la communion fraternelle. Et soit dit en passant, bien souvent, la communion fraternelle, on la vivra pas nécessairement ici, c'est à l'Église. Ici, à l'Église, on se salue, tout ça, mais c'est rare qu'on va s'asseoir ensemble, puis qu'on va parler pendant des heures, puis qu'on découvre que quelqu'un aura besoin de prière pour tel sujet. C'est rare qu'on va apprendre ça, c'est à l'Église. On va plutôt apprendre ça en se visitant et en se côtoyant les uns les autres. Ça fait partie de la vie d'Église, une vie de communauté ou s'il y a des besoins, quelqu'un se sent à l'aise pour les partager avec d'autres. C'est que je ne dis pas qu'on n'apprend rien quand on vient à l'Église au niveau des besoins des autres, mais on apprend beaucoup plus à se côtoyer, à se visiter. OK, alors ceci étant dit, quand le Seigneur parle des petits, il fait allusion à ceux qui suivent ses enseignements. Puis, au verset 3 et 4, il rappelle l'exigence du pardon, parce que le Seigneur sait très bien que les hommes et les femmes ont cette facilité-là à se blesser les uns les autres. Verset 3 et 4, « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour et que 7 fois il revienne à toi disant, « Je me repens », qu'est-ce que tu fais? Tu lui pardonnes. Ouais, mais ça fait 7 fois qu'il vient. Tu lui pardonnes. Les disciples de Jésus, ils avaient tous été imprégnés des textes de la loi de Moïse, puis du même coup, ils avaient été imprégnés de l'enseignement des pharisiens, qui, soit dit en passant, était un enseignement qui était particulièrement dur et demandant. L'enseignement des pharisiens, ça tournait autour de « fais ci, fais pas ça ». »« Fais ça, ça, tu fais pas ça ». Tu sais, c'est « fais, fais pas ». Alors, tout ça, ça avait fait en sorte que ça les a déresponsabilisés de leur relation qu'ils devaient avoir entre eux et avec Dieu, c'est-à-dire le plus grand commandement de la loi. Alors, la foi, c'était plus quelque chose qui était nécessaire. Mais l'obéissance à la loi, ça, c'était de la plus haute importance. C'est une des raisons qui fait que Jésus faisait ses miracles le jour de sabbat. C'était pas pour piquer les pharisiens, mais c'était pour leur montrer que vous mettez l'enfant sur ce que dit la loi. Regardez ce qu'on lit dans Luc. Luc, le chapitre 13, le verset 14. Jésus vient de guérir une femme qui était infirme depuis 18 ans. Jésus a fait un miracle, c'est qu'il l'a guéri. La seule chose que cette femme a faite, c'est qu'elle était là, dans la bonne synagogue, au bon moment. Alors là, Jésus, c'est qu'il a guéri, et au verset 14 de Luc 13, on lit, « Mais le chef de la synagogue, indigné, ça veut dire en colère, fâché de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, et regardez sa logique. Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc pour vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Il y a 6 jours, vous pouvez venir pour vous faire guérir, mais parce que c'est le sabbat, restez chez vous. Trouvez-vous ça que ça montre de la compassion, de l'amour et c'est du bon sens? Non. Alors, le Seigneur, dans sa réponse, il couvre tout ce qu'il y a à dire dans ça, c'est hypocrite. Hypocrite. Qui de vous, si son bœuf tombe dans une fosse le jour du sabbat, va dire « Ah, ben on n'a pas le droit de travailler, je vais attendre à demain. » Vous allez travailler pour qu'il sorte de la fosse. Alors, hypocrite, moi, parce que j'ai sauvé quelqu'un qui était malade depuis 18 ans. Vous avez à redire, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Où est la sorte d'amour qu'on est censé avoir les uns vis-à-vis les autres? Et lorsqu'on lit ça, c'est le pharisien qui dit ça. Mais à chaque fois qu'on lit les Écritures, il faut toujours dire, dans une pareille situation, comment j'agis moi? C'est facile de voir les manquements des autres. C'est facile de voir la paille dans l'œil du voisin, alors que moi j'ai une poutre. Alors, Jésus va rappeler que la foi, c'est une exigence, que c'est la marque réelle qui distingue les vrais croyants. Quand l'apôtre ont demandé au Seigneur Jésus-Christ, quand les apôtres, c'est-à-dire, ont demandé au Seigneur d'augmenter leur foi, Jésus leur répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme un grain de moutarde. » Je ne sais pas si vous savez, mais un grain de moutarde, là, c'est comme le bout d'une aiguille. Alors, ce n'est pas relié à la quantité, mais sur qui la foi est rattachée. Au verset 7, on a ici l'occasion de la parabole. Jésus va se servir d'une situation qui était bien connue à l'époque. C'est-à-dire l'esclavage. Chez ceux qui étaient aisés en Israël, bien souvent, on avait des esclaves qui jouaient le rôle de serviteurs ou de maîtres que de maison. Puis c'est eux autres qui dirigeaient tout le trafic qui pouvait se passer dans une maison. Que depuis que ça existe, la relation maître-esclave, ça n'a pas changé, ça n'a même pas évolué. Le maître commande, l'esclave obéit. C'est comme ça que ça marche. Quand un maître et que tu es un esclave, il y en a un qui commande, l'autre obéit. Alors, l'esclave n'a aucun remerciement à attendre de son maître. Le maître ne lui doit rien, même pas un salaire. Aujourd'hui, c'est évident, on est en 2026, c'est certain que l'esclavage est une situation sociale qui scandalise beaucoup de gens et avec raison. C'est une destruction de la liberté, de la dignité humaine, puis il n'y a aucune reconnaissance d'égalité entre les êtres humains. Quand c'était le temps de l'esclavage, l'esclave, c'était considéré comme étant rien. C'était un outil qu'on utilisait. Pendant 250 ans, aux États-Unis, de 1619 à 1865, il y a eu une période de suprématie blanche. Les Blancs avaient la mainmise sur les Noirs. De 1861 à 1865, aux États-Unis, il y a eu la guerre qu'on appelle la guerre de sécession. 4 ans. Alors, on voit qu'aux États-Unis, et c'est encore pareil aujourd'hui, ça a toujours été un peuple divisé. Il y avait des gens qui étaient pour l'esclavage et d'autres qui étaient contre. Et ça a fait en sorte qu'il y a eu deux groupes qui se sont battus un l'autre pour essayer d'éradiquer ça, cette chose-là. Puis lorsque Abraham Lincoln est mort en 1865, la loi, je pense, elle était passée comme quoi que l'esclavage était aboli. Sauf qu'il y a des gens dans le Tennessee, c'est un groupe qui existe encore, le Ku Klux Klan, qui eux font tout, ils veulent rien savoir de ce que des Noirs puissent avoir les mêmes libertés que les Blancs. Alors on voit que l'esclavage a toujours fait beaucoup de ravages aux États-Unis. Au Canada, nous autres, on est un petit peu plus polis. Et je dirais un petit peu plus hypocrite. Est-ce qu'il y en a qui ont un billet de 10 $ sur eux en ce moment-là? C'est une heure? Que me sort les dents, ouais. Est-ce que c'est
vrai? Oui, c'est lui.
Aujourd'hui, sur les billets de 10 $ on a cette photo-là. Cette dame-là s'appelle Viola Desmond. OK? Viola Desmond, elle s'est assise un jour sur un siège qui était réservé aux Blancs dans un cinéma en Nouvelle-Écosse. C'est au Canada, ça, là. Alors, on lui a demandé de payer des frais supplémentaires, mais elle a refusé. Alors, elle a été expulsée du cinéma et on l'a mise en prison. C'est fou de même. La seule raison, c'est de la ségrégation. Elle n'avait pas le teint de la même couleur que les Blancs. Alors, c'est évident. Tiens, je te l'ordonne tout de suite parce que je pourrais. Mais au temps du Seigneur Jésus, au temps biblique, il n'y avait pas grand monde qui était troublé par cette notion-là, l'esclavage ou encore même la ségrégation. Mais il ne faut pas penser ou il ne faut pas faire l'erreur de penser que parce que Jésus parlait de serviteurs ou d'esclaves qui étaient en train d'approuver l'esclavage. Il va juste utiliser une situation qui était très bien connue à cette époque-là pour donner un enseignement sur les relations entre Dieu et les hommes. Que Billy Graham, tout le monde connaît Billy Graham? Lorsque Billy Graham arrivait dans une ville pendant ses nombreuses campagnes d'évangélisation, la première chose qu'il faisait, il prenait les journaux locaux, il les lisait pour connaître les derniers événements qui s'étaient passés dans la ville où c'est qu'il allait donner une conférence. Alors, son but, c'était de capter l'attention lorsqu'il allait prêcher que l'Évangile. Et ça devrait être ça aussi, toujours le but, lorsqu'on prêche l'Évangile, capter l'attention. Seigneur Jésus-Christ a déjà dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, lorsqu'on parle de l'Évangile, on veut capter l'attention des gens. On peut faire toutes sortes de détours pour en arriver à parler d'un sujet X, mais le but, c'est de les intéresser à ce que les Écritures disent. Maintenant, si on vient à la parabole, on peut se poser la question à savoir, est-ce que le maître dans notre parabole, est-ce que le maître il a une bonne attitude? Quel maître va dire à son esclave après qu'il ait accompli sa tâche, « Viens tout de suite te mettre à table. » Il n'y a aucun maître qui va agir de cette façon-là avec son esclave. Le maître semble exigeant et sévère ici, mais mais pas brutal. Il n'est pas brutal. Il ne le bat pas, il ne le fouette pas, ce que certains mauvais maîtres faisaient avec leurs esclaves. Mais tout ce qu'il dit, c'est approche-toi et puis serre-moi. Alors, la situation que Jésus est en train de décrire était normale et simple pour l'époque. Alors, le maître commande, le serviteur obéit, c'était une situation courante. Puis le maître n'est pas tenu de manifester de la reconnaissance envers celui qui est là pour servir. Verset 9, c'est écrit, « Dieu doit-il la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné. Et le verset 8, 10, « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous était ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Alors, que l'expression « serviteur inutile », ça nous chatouille un petit peu. C'est plutôt choquant. Dans la version sommaire, on lit « serviteur sans mérite ». Pas mieux. Dans le grec, on a des traductions encore plus fortes. Serviteur sans profit, qui ne rapporte rien de particulier à son maître. Il y a une autre traduction qui dit serviteur bon à rien. Fait que quand on lit ça, on dit boy, comment qu'il faut interpréter ça là, maintenant? Alors, au début de la parabole, ceux qui l'entendaient, cette parabole-là, trouvaient ça normal parce que dans la loi de Moïse, c'était autorisé que des maîtres aient des esclaves. Alors, les gens n'étaient pas tous scandalisés avec ces choses-là. Mais ce qui est déroutant dans notre histoire, c'est que Jésus va renverser la situation. Il va placer les auditeurs dans la peau des serviteurs. Ou encore dans la peau des esclaves inutiles qui ont pourtant fait ce que le maître exigeait. On passe du verset 7 à « Qui de vous ayant un serviteur? » Puis on s'en va à « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous avait été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait que ce que nous devions faire. » Alors là, on vient de changer de camp, là. On n'est plus le maître des esclaves, mais on est maintenant l'esclave qui doit agir vis-à-vis un maître. Alors, on comprend que la parabole peut s'adresser facilement aux chrétiens. Maintenant, quelle sorte de serviteur est-ce qu'on pense être, nous, vis-à-vis Dieu? Mais dans le temps de Jésus, les pharisiens se voyaient comme étant les meilleurs défenseurs de la cause de Dieu. Ses meilleurs serviteurs. Et c'est ça qu'il enseignait. Il était, autrement dit, les modèles de la religion à suivre. Les pharisiens, c'est ça qu'il avait comme compréhension. Suivez-nous. Suivez-nous, on est correct, on est ceux qui vous enseignent. Vous devez obéir à ce qu'on vous enseigne. Alors, Jésus, il a donné cette parabole pour montrer à tous ceux qui enseignent que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut accomplir en quantité et en qualité des œuvres qui vont servir à compléter le sacrifice de Jésus à la croix ou le rendre plus efficace. Ben, tous ceux-là sont grandement dans l'erreur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je suis sûr. C'est une autre façon de se mettre sous une loi qui n'est pas celle de Dieu. La loi de Dieu, c'est une loi de grâce et d'amour en Jésus-Christ. Ce n'est pas un échange ou une négociation entre Dieu et l'homme. Et suivez-moi bien ici, l'homme est champion pour négocier. L'homme est un très bon négociateur, même avec Dieu. Seigneur, si tu me donnes ça, je vais faire ça. On négocie avec lui. Ou il y en a d'autres qui, pour eux, Dieu est un Dieu pompier. Le feu est pris, appelons mes pompiers. Seigneur, viens nous aider, viens à notre secours. Mais quand ça va bien, tu n'as pas besoin du pompier, alors tu ne l'appelles pas. Tu le laisses tranquille. Un Dieu pompier. Alors, penser qu'il faut se rendre meilleur ou plus serviable ou le plus serviable possible pour gagner la faveur de Dieu, c'est de faire fausse route. Ou encore penser que Dieu me doit quelque chose parce que je fais partie des plus zélés ou de ses plus efficaces serviteurs, c'est de me faire oublier ce qu'on vient de lire dans le verset 9 et 10. Est-ce que Dieu me doit de la reconnaissance? Est-ce que le maître doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles pour la simple et bonne raison qu'on a fait ce que nous devions faire. Il n'y a aucun mérite à faire ce que tu dois faire. Tu n'as pas de mérite. Tu fais ce que tu dois faire. Espérer nous approcher de Dieu en observant une loi, c'est pas possible. Puis on en a une preuve assez convaincante dans le livre de la Genèse. Combien de commandements, c'est curieux, parce que Jean-Pierre Cloutier, cette semaine, dans le message qu'il a amené, il a justement que souligné ça. Combien de commandements Adam et Ève avaient-ils à respecter dans le jardin d'Éden?
Un seul.
Est-ce qu'ils ont réussi? Ils ont failli. Ils ont failli à la tâche avec un seul commandement. Le commandement, c'est tu pourras manger tous les arbres du jardin. Puis, il y en avait-tu des arbres dans le jardin d'Éden? Il y avait des fruits là, merveilleux, mûrs, bons et tout ça. Il y en avait une panoplie. Tu peux manger de toutes les arbres du jardin, gêne-toi pas. Mais, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu vas en manger, tu mourras certainement. Il y en avait juste un à ne pas manger. On comprend, là, on comprend l'être humain, là, quelle sorte de... Dans le cœur, c'est de la désobéissance qui veille, qui est là, puis qui gronde, tu sais. Le jour où on va avoir une chance, je vais désobéir. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Ils avaient accès à tous les arbres du jardin. Et ils désobéissent en mangeant du fruit de l'arbre que Dieu leur avait défendu de manger. Auriez-vous fait mieux?
Non.
Personne n'aurait fait mieux. Si Adam et Ève ont planté, ont chuté, quand je dis planter, là, mais quand ils ont chuté, j'aurais pas fait mieux, moi, là. Alors, seul Jésus, le Fils de Dieu, a pu accomplir toutes les exigences de la loi. Il est le seul qui a pu se présenter devant Dieu comme le serviteur parfait qui a accompli toute la volonté de Dieu. Alors, vouloir se présenter devant Dieu avec des bonnes œuvres, espérant pouvoir en retirer des honneurs ou une meilleure place dans le ciel, c'est un orgueilleux, c'est arrogant, et comme on vient de le voir, c'est pas possible. C'est uniquement par Jésus-Christ qu'on est en mesure de s'approcher de Dieu. On est en 2026. Je vous apprends pas grand-chose, là. On est en 2026, en Amérique du Nord et dans plusieurs pays industrialisés, on s'est bâti une société qui nous a rendus spectateurs. C'est vrai, hein?
Oui.
On est des spectateurs de tout. Quand vous écoutez les sports, entre autres, c'est ici, là, à Montréal, c'est la coupe que Rogers, là. Deux joueurs qui sont sur un terrain avec des milliers et des milliers de mes spectateurs pour voir deux joueurs taper une balle. On est des spectateurs. Quelqu'un même a déjà dit, on est même des spectateurs de notre propre vie. On prend de moins en moins d'initiatives pour accomplir des tâches qu'on souhaite que d'autres vont faire à notre place. On prend de moins en moins de responsabilités, attendant que la société ou le gouvernement les prenne à ma place. Et soit dit en passant, on se paye même le luxe de critiquer ceux qui ont été placés, les politiciens. Si on n'est pas d'accord avec eux autres, on chiale après eux autres. T'es pas d'accord avec lui? Prends sa place. Non, mais c'est ça, là. C'est facile, chialer. Oh, eux autres, le gouvernement, il fait ci, il fait ça. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est la société qui est responsable de tout. Mais la société, c'est qui, ça? C'est chacun de nous. Alors, je suis responsable de rien, d'autres le sont à ma place. Puis, malheureusement, cette mentalité-là de l'Occident est pénétrée dans l'Église. Ça a pénétré tranquillement, mais ça a fait son chemin pareil. Dans le sens que d'autres vont le faire à ma place. Il y aurait des choses à faire au niveau des c'est sûr, mais il y en a d'autres qui vont le faire à ma place. Le 20 janvier 1961, John F. Kennedy, lors de son discours inaugural, il a dit aux Américains, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Il a comme renversé les rôles. Mais aujourd'hui, dans la mentalité nord-américaine et même, je pense, européenne, on a tendance à laisser les autres faire. Alors, quand on lit cette parabole-là, sachant que le maître est celui qui commande et que le serviteur et la servante sont ceux qui obéissent, comment est-ce qu'on comprend les expressions serviteur et servante de Dieu aujourd'hui dans l'Église? Quand le Seigneur a utilisé ces deux mots-là, serviteur inutile ou sans mérite, ou sans profit. Plutôt que de me décourager, ça devrait plutôt m'encourager quand je vois ça. Pourquoi ça devrait m'encourager? Parce que Dieu, il ne se berce pas d'illusions sur mon compte. S'il a besoin de moi comme serviteur, c'est parce qu'il veut. Et il va me donner le privilège de pouvoir agir pour lui. Parce qu'il le veut. Est-ce que Dieu a eu besoin de moi pour faire quoi que ce soit? Est-ce que Dieu a eu besoin de moi pour créer le monde? Est-ce que Dieu a eu besoin de moi pour bâtir son Église? Jésus l'avait très bien spécifié à Pierre, hein? Il dit, je bâtirai mon Église. Alors, qu'est-ce qu'on fait l'un d'autre dans ça? On a le privilège de pouvoir travailler pour lui. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est un privilège, c'est une grâce, exactement. Si j'aborde le service sous l'angle d'un travail obligatoire ou d'une corvée, ou encore avec la pensée que je suis indispensable pour l'œuvre de Dieu, ben, j'étais au même point que les pharisiens qui se pensaient essentiels et nécessaires. On l'a souvent entendu, on vient juste de l'entendre, c'est une grâce, un cadeau que Dieu nous accorde en nous appelant à être à son service et non une corvée. Dans la bouche de quelqu'un d'autre, l'expression serviteur est inutile, c'est comme dégradant, puis c'est comme sévère aussi. Mais pour le Seigneur, mes manquements, ça ne le dérange pas. Je ne dis pas qu'il n'en tiendra pas compte, mais ça ne le scandalise pas. Ça ne le dérange pas tant que ça. Son amour pour moi dépasse ma capacité à le servir correctement. Qui de vous aurait confié la direction de son troupeau à quelqu'un qui vous aurait renié 3 fois? C'est exactement ce que le Seigneur a fait avec Pierre. Il l'a renié 3 fois, ayant dit, moi, je ne suis pas comme les autres. Même si toute la gang te lâche, je ne t'abandonnerai point. Et c'est le seul qui a fait ce qu'il avait dit qu'il ne ferait pas. Alors, son amour l'a poussé à faire confiance à Pierre, malgré ses échecs. Et c'est la même chose pour chacun de nous. Si on se dit, moi, non, non, moi, je ne m'impliquerai pas dans quelque ministère que ce soit, pas capable, je ne suis pas bon. Pensez-vous, vous venez d'embêter le Seigneur? Il vous tend une perche, il vous donne un cadeau, un privilège. Oh! C'est un privilège. C'est par amour pour son Père que Jésus s'est fait homme, et c'est par ce même amour pour les hommes qu'il est venu mourir à leur place sur une croix. Aimer Dieu, le servir, c'est possible uniquement parce que Dieu en Jésus-Christ nous aime totalement, complètement et gratuitement. Et si le servir est une grâce, comme on l'a vu, on peut comprendre puis accepter que Dieu ne me doit rien. Il ne me doit rien, écoutez bien ça, là, parce qu'il m'a tout donné. Le Seigneur ne me doit rien parce qu'il m'a tout donné. Jean 3,16 nous révèle la nature de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est dans sa nature de donner. Alors, s'abandonner à l'amour de Christ, c'est le seul moyen pour qu'on puisse porter des fruits pour lui. C'est parce qu'on l'aime, on apprécie ce qu'il a fait pour nous, qu'on lui remet notre corps en entier. La nuit que je me suis converti, je n'ai pas compris grand-chose. J'ai compris une seule affaire. Il a tout fait pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Mon premier réflexe et ma première prière, ça a été, je vais lui redonner la mienne. Il m'a donné sa vie, je lui redonne la mienne. Et c'est à partir de là que ça a commencé. Alors, Dieu veut me prendre à son service malgré ce que je suis. Je devrais plutôt le remercier au lieu de me questionner à savoir si je suis utile pour lui. Dernier point que je veux examiner avec vous, c'est notre compréhension d'un service pour Dieu. Comment est-ce que je comprends ça? Servir Dieu. Il y a certains passages de l'Écriture qui décrivent les croyants comme étant des esclaves de Dieu. Je vais vous en lire deux. Un dans Romains 6, 22. Romains chapitre 6, verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et 1 Corinthiens 7, 22. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Alors, comment est-ce qu'on comprend ça? Ben, personne n'est plus libre qu'un chrétien parce que Christ nous a libérés du pire esclavage qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire celui du péché. L'histoire des martyrs confirme que pour eux, la signification d'être chrétien, c'était être esclave de Christ. Eux autres, là, c'était ça. Je vais donner ma vie, mais eux autres, c'était littéral. Moi, quand je me suis converti durant la nuit, je vais te donner ma vie, Seigneur. Je ne pensais pas à me faire tuer, mais pour certains, ça a été le cas. Voilà. Faut regarder à l'exemple du Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait le serviteur de tous. Il a toujours fait la volonté du Père, mais en tant que fils et non pas en tant qu'esclave. Non par obligation, et ça c'est bien, il faut le souligner, le Seigneur a fait ce qui lui avait été demandé de faire, pas par obligation, mais par amour pour son Père et pour son prochain. Et c'est exactement ça qu'on est invité, toute la gang, à faire. Jean 15, 15, on lit, Jésus dit ça, il dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Alors Jésus nous appelle ami et non serviteur. On n'est pas des esclaves, mais des amis. À notre conversion, Dieu n'a pas fait de nous des esclaves qui doivent obéir à un maître exigeant et que méchant. Encore moins. Mais quand on lit « esclave » dans la Bible, il faut le voir comme quelqu'un qui a été racheté. Racheté pour être affranchi ou libéré du péché. La Bible dit encore dans Jean 1, 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, la lumière, à mes paroles, à ceux-là, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » On est devenus des enfants de Dieu. Vous savez, il y a des mots, il y a des termes, il y a des phrases dans la vie chrétienne qu'on... Hey, on est des enfants de Dieu, c'est le fun. Amen. On est des enfants de Dieu. Comment réagissez-vous avec vos enfants? Est-ce que vous les aimez juste quand ils sont beaux, gentils et fins? Ou si vous les aimez autant lorsqu'ils font des affaires qui vous horripilent? Mais c'est que ça qu'on est vis-à-vis Dieu. On est ses enfants. Alors, j'ai été appelé par Dieu pour vivre comme un fils et une fille pour son père, comme faisant la volonté de son père par amour pour lui et parce que je suis aimé de lui. Si j'oublie ça, j'agis exactement comme le fils aîné dans la parabole du fils prodigue. Le fils aîné, le fils plus vieux, vous vous rappelez comment est-ce qu'il réagit quand son frère est revenu? Il s'est mis à chioler après son père. Puis là, ce gars-là, il avait abandonné l'idée qu'il était un fils pour son père, puis que son père l'aimait pas moins que le fils. Puis le fils qui avait dilapidé sa fortune chez des prostituées, puis tout ça, le père l'aimait pas moins, lui non plus. Il les aimait les deux d'un amour égal. Mais le fils aîné se conduit comme un simple serviteur. Il pense que son père lui doit de la considération et des récompenses. Il a oublié que l'amour du père est identique pour les deux fils. C'est la même chose pour notre Père céleste. C'est exactement la même chose. Il aime chacun de ses enfants, pas parce qu'ils font, mais parce qu'ils sont devenus enfants de Dieu, parce qu'ils ont cru à l'œuvre de son Fils. On a changé de camp. Alors, se penser indispensable, c'est d'avoir oublié qu'on est des serviteurs inutiles. Rien dans tout ce qu'on pourrait faire pour le Seigneur est suffisant pour le gratifier ou même pour le remercier de ce qu'il a fait pour nous. Après que le disciple a fait tout ce qui lui était commandé dans le Nouveau Testament, il doit admettre, comme on a lu dans la parabole, « Je suis un serviteur inutile. » Mais Dieu, dans sa grâce, il nous dit autre chose aussi dans le Nouveau Testament. On se doit d'être motivé par l'amour que le Père a eu pour nous. Et quelle sorte d'amour qu'il a eu pour nous? Il nous a donné ce qu'il y avait de plus précieux. Qu'est-ce que vous avez de plus précieux que dans vos vies? Mais à part lui, là. Ça, c'est une excellente réponse. Je pense que c'est ceux qui sont mariés, qui ont de plus précieux, leurs femmes, leurs enfants. Arrivez-moi pas avec mon troc, parce que je m'ai tiré. Non, mais on comprend. Ce qui est le plus précieux dans nos vies, est-ce qu'on serait prêt à l'abandonner pour quelqu'un qui n'est pas gentil avec nous, qui ne nous aime pas, qui n'a aucune considération pour nous? C'est évident que non. On ne serait pas prêt à faire ça. Dieu, le Père, l'a fait. Il nous a prouvé à quel point il nous aimait en nous donnant ce qu'il y avait de plus précieux, son Fils unique. Et dans les Écritures, on voit à quelques endroits, celui en qui j'ai mis toute mon affection. C'est lui qui a abandonné pour nous. Alors, ceux qui veulent servir le Seigneur devraient être motivés par cette sorte d'amour-là et se rappeler aussi ce que Jésus-Christ a dit un jour, que le Seigneur va confier beaucoup à ceux qui ont été fidèles en peu de choses. Beaucoup et peu de choses. Que le Seigneur nous aide vraiment à serrer ça dans nos cœurs et qu'il nous aide à apprécier la sorte d'amour qu'il y a eu pour nous. Prions. Oui, notre Dieu et Père, encore une fois, on est tellement heureux, Seigneur, de considérer la profondeur, sans même pouvoir la sonder complètement, mais on comprend que tu nous as aimés d'un amour qui est insondable. On veut te dire à quel point on l'apprécie, à quel point on t'apprécie, qu'on apprécie la personne du Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Et on veut, Seigneur, que par ton esprit, tu nous stimules à nous aimer et te servir de la sorte. Et c'est pour ta plus grande gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen.